des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Les émotions nécessaires pour la survie de nos ancêtres qui leur permettaient de réagir face aux dangers de leur environnement sont parfois difficiles à maîtriser dans une société qui nous demande un self-control à toute épreuve. Mais peut-on seulement gérer ces émotions ? Les émotions, c'est une nouvelle série que nous vous proposons avec le docteur Dominique Demichel, émission qui s'appuie sur l'excellente revue Archipel, revue de l'association Jalmave, jusqu'à la mort, accompagner la vie.
Le crocodile, c'est comme ça qu'a été nommé le cerveau reptilien, c'est-à-dire c'est ce cerveau extrêmement archaïque qui fonctionne sur un mode complètement automatisé, c'est-à-dire voilà, génétiquement on a tous un cerveau archaïque et qui a comme fonction de prolonger la vie, donc c'est quand même pas rien, et ça doit être tellement important que nous n'avons absolument pas le contrôle sur lui. Et donc ce cerveau crocodile, il est par les sens directement en lien avec le milieu extérieur et sa fonction, c'est de nous faire réagir au travers d'un tout un système sensoriel, de nous faire réagir à l'environnement. Systématiquement, ce cerveau reptilien tend à équilibrer et à apporter un équilibre par rapport aux événements qui arrivent à nous et qui sont susceptibles de nous déstabiliser, parce qu'on l'est forcément. Et donc, c'est vraiment le lieu originel de l'émotion. On s'imagine que l'émotion naît de pensée, de conscience. Pas du tout. L'émotion naît d'un cerveau archaïque sur lequel nous n'avons pas le contrôle et qui nous fait être de fait. Et c'est Henri Laborie qui avait cette formule absolument parfaite qui disait « la finalité d'un être, c'est être ». Et grâce au cerveau reptilien, grâce au crocodile, nous sommes.
Notre cerveau crocodile, c'était Catherine Emelet-Périssol, thérapeute, docteur en médecine, qui a développé, entre autres, le concept de logique émotionnelle. Et vous avez pu entendre un entretien proposé par la chaîne Alter Ego. Docteur Dominique Demichel, alors, biologiquement, c'est très difficile de maîtriser ses émotions, comme nous venons l'entendre, et comme nous l'avons vu dans toutes nos émissions précédentes. Mais quand même, apprivoiser le crocodile, c'est important, hein.
Oui, j'ai pas une affection particulière pour les crocodiles, alors que quand même j'ai une reconnaissance, une affection, mais aussi une reconnaissance quand même très très importante vis-à-vis de ce cerveau reptilien, en effet. Reptilien, ça veut juste dire que c'est ancien, hein, les reptiles, les dinosaures, c'était des sauriens, hein, c'est-à-dire en fait des animaux qui étaient certes sortis de la Terre, mais qui étaient sortis pas depuis très très longtemps. Donc, et ça remonte à plusieurs millions d'années. Voilà, donc ce cerveau reptilien, il n'y a pas lieu, il me semble, de le percevoir comme un ennemi. Il faut au contraire vraiment le percevoir comme quelque chose qui nous est très très utile. Hein.
Ce qui est intéressant, enfin, ce qui me semblait entendre ce Catherine Emelet-Périssol, c'est que c'est... On peut pas gérer ce qui nous arrive dans l'amygdale qui est dans notre cerveau que nous avons vu dans la précédente émission. C'est biologique, c'est presque mécanique et heureusement que c'est comme ça d'un côté.
Voilà.
Même si effectivement c'est à double tranchant parce que ça peut nous jouer des tours surtout à n'importe quel moment de notre vie.
Voilà, il faut se rappeler que quand la vie est apparue, je crois que je l'avais dit lors d'une émission précédente, lorsque la vie est apparue et s'est singularisée un tout petit peu. Il y avait deux choses qui étaient très importantes. La première, c'était de manger, et la deuxième, c'était de ne pas être mangé. Voilà, parce que si on était mangé, il n'y avait plus de problème après pour manger, mais on n'existait plus. Et puis, il fallait bien manger, parce qu'autrement, on risquait de mourir assez rapidement. Donc, vous voyez, la vie a inventé ces systèmes-là pour assurer notre protection. Donc, en effet, ça fonctionne de manière absolument automatique. Et à l'autre bout, pour reprendre votre question, à l'autre bout, j'allais dire, de la chaîne, c'est-à-dire dans un espace complètement psychique, j'aurais envie de dire... Il me semble fondamentalement que nous ne sommes jamais responsables, dans le sens d'une forme de culpabilité par exemple, nous ne sommes pas responsables de nos émotions. Nous sommes responsables de ce que nous faisons de nos émotions, mais pas de nos émotions. Voilà, de temps en temps, on est en train de discuter avec quelqu'un et on a un sentiment positif ou on a un sentiment négatif. De temps en temps, on sent surgir à l'intérieur de soi un sentiment agressif ou un sentiment de violence ou de haine vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ben voilà, c'est comme ça, ça surgit, ça vient de notre histoire, mais ça vient aussi de quelques milliards d'années de vie qui ont mis en place ces systèmes de défense.
Alors nous allons aborder d'autres conséquences de l'émotion, d'autres types de l'émotion, grâce à votre expérience, docteur Dominique de Michel. Alors on a parlé dans des émissions précédentes, on a beaucoup évoqué ce terme-là de circuit de la récompense.
Oui, alors ce circuit de la récompense est un circuit important, parce qu'en fait, il résulte du fait que on apprend certaines choses, on expérimente certaines choses, et que dans cette expérimentation, on a du plaisir. Ce plaisir-là est engrammé à l'intérieur de nous-mêmes et de manière assez automatique, on va chercher à le retrouver. Donc ça s'appelle un circuit de la récompense. Il repose sur un espèce de groupe de neurones, un ensemble de neurones, dans lequel circulent au fond les émotions. Ça n'est pas simplement la tension entre l'amygdale qu'on a vue et que vous venez de rappeler et le cortex préfrontal qui s'équilibre tous les deux, mais c'est un système automatique qui fait que il y a des choses que l'on fait dans notre vie et qui sont importantes à faire et on en a tiré un plaisir ou ça fait partie de notre devoir, comme de nous nourrir, de nous défendre, de nous occuper de nos enfants, d'avoir du temps pour nous, réfléchir au fond à ce qui compte dans notre existence. Et je crois que l'évolution au fond a en quelque sorte récompensé ces comportements qui étaient très utiles dans la vie et on a fait une espèce de système autonome. Alors on peut citer les noms, il y a le plus souvent le nom qui est connu, c'est le noyau accumbens, connu, voilà, ou l'aire tegmentale ventrale, c'est pas très très important, on peut retenir l'idée de ce circuit de la récompense. Ce circuit de la récompense est marqué par un neuromédiateur particulier qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine, c'est l'hormone qui intervient dans ce circuit de la récompense. On sait par exemple qu'il y a des neurones qu'on dit dopaminergiques, c'est-à-dire qui fonctionnent à la dopamine. On sait que par exemple pour certains automatismes, il y a un déficit en dopamine. Il y a une maladie que tous les auditeurs connaissent qui s'appelle la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est liée au fait qu'il y a des circuits neuronaux qui sont dans ce qu'on appelle les noyaux gris centraux. Je rappelle ce que c'est. Dans notre cerveau, il y a la partie la plus externe de notre cerveau, juste sous le crâne et puis les méninges, qui est le système de commandement, mais plutôt conscient, on pourrait dire, que ce soit dans les initiations motrices, que ce soit dans la réception des informations auditives. Là, c'est le cortex occipital, donc au-dessus du cou, par exemple. Que ce soit dans la motivation, dans plein de choses. Mais il y a aussi d'autres noyaux plus centraux, en dessous, c'est plus automatique, c'est le noyau gris centraux qui accompagne nos automatismes. Et dans la maladie de Parkinson, ça marche pas très bien. C'est la dopamine, là aussi, qui est en jeu, indépendamment du circuit de la récompense. Et on va, en particulier, donner, chez les malades qui sont parkinsoniens, un dopaminergique. On va donner de la dopamine, de la L-DOPA, avec une autre chose associée. Mais voilà, les gens qui sont parkinsoniens, ils avalent de la dopamine.
Alors si on en reste au niveau psychique, quelles sont les conséquences justement d'une mauvaise régulation de ce circuit des récompenses, peut-être lié à une mauvaise expérience
Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que le mode de fonctionnement fait que ce circuit induit plusieurs éléments d'expérience à l'intérieur de nous-mêmes. La première, elle est d'abord essentiellement affective, c'est-à-dire on a du plaisir à faire quelque chose. J'aime bien manger un carré de chocolat, j'aime bien me retrouver avec les amis, j'aime bien me retrouver devant un bon film à la télévision, j'aime bien aller me promener pendant tout un dimanche après-midi dans la nature. Voilà. Et ce plaisir-là est engrammé et parce qu'on a du temps disponible, parce que dans la hiérarchie de valeurs et dans la hiérarchie du temps, on peut le mettre, alors on va se dire, tiens, et si on allait se promener? le circuit s'emballe en disant oui, c'est un circuit de plaisir, on propose ça à d'autres, surtout si on peut le partager, on est encore plus content, et on y va. Même chose pour le déplaisir, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est associé à de la pénibilité, eh bien, ce circuit aussi s'enclenche et nous donne cette information. Le deuxième élément dans le fonctionnement aussi, c'est la motivation. Évidemment, si ce circuit de la récompense est associé à un plaisir, évidemment, ça va nous porter, ça va nous motiver à aller faire un petit tour dans l'après-midi pour se promener. Si au contraire, c'est associé à quelque chose qui est désagréable, eh bien, on va éviter de le faire ou on va le décaler ou on va avoir une autre structure, par exemple, notre cortex préfrontal, qui va nous dire, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Eh bien, on a fait la machine à laver, c'est fini, je ne vais pas laisser le linge mouillé dans la machine, il faut que j'aille l'étendre. Je n'ai pas très envie, j'ai envie de faire autre chose, mais il faut le faire. Voilà, le troisième élément, c'est une dimension plus cognitive, c'est-à-dire plus élaborée, où il s'agit de continuer notre apprentissage. C'est-à-dire au fur et à mesure, on va se dire, tiens, je fais l'expérience que finalement une promenade le dimanche après-midi, ça me détend, ça me fait du bien et je suis plus reposé. Et alors, voilà, ce circuit de la récompense va nous inciter, parce qu'il va donner une stimulation dopaminergique à notre cerveau, il va nous stimuler pour qu'on le refasse peut-être plus régulièrement. Ou on va pouvoir se dire, tiens, finalement, la machine à laver, si je le fais juste après, c'est plus simple, j'en suis débarrassé, ou je sais pas trop quoi, ou ça évite que le linge soit complètement chiffonné si je le fais une ou deux heures après, ou beaucoup plus tard.
Alors, donnez-nous un exemple des pathologies qui pourraient être liées à une déficience de ce système.
Alors, c'est compliqué de le dire, parce que probablement, ce circuit de la récompense n'intervient pas de manière tout seul. Il intervient toujours avec ce que vous aviez rappelé tout à l'heure, à savoir cette amygdale qui nous envoie des informations en permanence sur toutes nos expériences difficiles, nos expériences de peur. Le cortex préfrontal qui nous envoie des informations, par exemple, de dire il faut quand même le faire. Mais on peut prendre l'exemple de l'anorexie. L'anorexie, vous savez, c'est une maladie, je crois qu'on peut dire, qui intervient le plus souvent chez les jeunes filles, même si on en rencontre de plus en plus chez les garçons, au moment de l'adolescence, et qui se caractérise, alors c'est un peu difficile de résumer ça, c'est une maladie qui se caractérise par une forme de mise à distance du corps et de survalorisation de la pensée. C'est-à-dire, entre ces deux fonctions, c'est-à-dire d'un côté la pensée et de l'autre la sensation, par exemple, et aussi les émotions, le corps est dévalorisé et la pensée est survalorisée. Donc on pourrait dire que tout ce qui va toucher à l'expérience sensorielle de l'alimentation est associé à quelque chose qui est de l'ordre du déplaisir, alors tout ce qui est associé à la pensée, à la réflexion, à une certaine forme d'intelligence, est associé à de la jouissance.
Alors comment peut-on remédier à...
Alors c'est compliqué, d'autant que la perception du corps chez les adolescentes n'est pas une perception classique, c'est pas une perception, je dirais, normale pas dans le sens d'un jugement de valeur, mais dans le sens de ce qui est la norme. Et on sait par exemple que ces jeunes filles qui peuvent peser moins de 50 kilos, il y a des critères par exemple qui vont inciter à une hospitalisation pour, en quelque sorte, nourrir de force ces jeunes filles, que l'image du corps de ces jeunes filles, l'image intérieure qu'elles ont de leur corps ne correspond pas du tout à la réalité. L'exemple le plus simple, c'est qu'on leur donne on leur montre des images sur un écran et on leur dit devant cette porte qui est plus étroite qu'une porte habituelle, est-ce que vous pensez que vous pouvez passer ? Et l'expérience montre que la majorité des gens normaux ont une bonne évaluation. Ils disent « Oh, oui, je pense que je peux passer. Oui, là, je passe largement. Ouh là, ça risque d'être un petit peu juste. Je vais passer en me mettant de biais. » Voilà. Les jeunes filles anorexiques qui ont un poids très, très mince, donc qui pourraient passer dans des portes extrêmement, extrêmement étroites, comme on n'en fait pas, mais comme on peut en imaginer et en fabriquer sur un écran, ont une très mauvaise évaluation. Donc, vous voyez, l'image objective de leur corps n'est pas réelle et elles pensent qu'elles ne passent pas à travers une porte alors qu'elles passent. Voilà. Donc vous voyez, l'image du corps est fortement perturbée.
La construction de la logique émotionnelle, en fait, la logique émotionnelle, c'est une cartographie, c'est une modélisation, c'est une cartographie qui permet, en ralentissant vraiment la L'observation de ce processus émotionnel, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de son propre fonctionnement, une sorte de boussole, et on devient conscient de sa propre boussole intérieure. Donc c'est très important parce que lorsque nous ne sommes pas attentionnés et conscients et donc responsables de notre propre boussole émotionnelle, la tentation est forte de la projeter sur les autres, d'en attendre quelque chose, etc. Et donc la logique émotionnelle, avec cette cartographie qui permet de voir que l'émotion, c'est comme une valse à quatre temps. Ça commence déjà par ce qu'on perçoit, c'est suivi de ce que ça nous fait à l'intérieur, et puis c'est suivi de ce qu'on fait à l'extérieur comme réaction, et tout ça pour rétablir un besoin biologique d'existence, d'être. Et donc, mieux nous avons conscience, mieux nous avons connaissance, et c'est vraiment connaissance au sens littéral, c'est-à-dire mieux nous naissons à nous-mêmes avec cette attention-là, plus nous développons une posture de responsabilité, plus nous pouvons nous aligner sur ce que nous sommes et donc qui nous sommes, et donc plus nous pouvons entrer en rapport avec notre environnement. Nous ne pouvons pas échapper au système reptilien. Ce que nous pouvons faire vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de nous réconcilier, c'est d'apprivoiser notre propre système, parce que nous constatons que plus nous le nions, ça s'appelle le déni, plus nous luttons contre, dans une sorte d'auto-agressivité vis-à-vis de soi-même, ou plus nous le subissons comme le seul moyen d'exister, plus notre rapport aux autres est stressé, est tendu et crispé vers une attente ou vers une projection. Et à ce moment-là, la relation n'est plus juste.
C'était de nouveau Catherine Emelet-Périssol dans cet extrait proposé par la chaîne Alter Ego. Catherine Emelet-Périssol qui a développé le concept de logique émotionnelle. Alors, docteur Dominique Desmichel, ça reprend un petit peu beaucoup de choses que nous avons dit, mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que il faut d'abord se comprendre le fonctionnement, comme nous avons essayé de le faire, pour se connaître, et puis à partir de cette connaissance, apprendre à se respecter. C'est quelque chose, on parlait de l'anorexie oui. Il y a quelques minutes, j'imagine que le respect de son corps, de soi-même, voilà. On est tout à fait dans le sujet là.
Alors justement, je vais vous proposer un exemple très, très précis à ce propos-là. Je crois qu'on pourrait continuer à dire des tas de choses chez les anorexiques, par exemple en se disant qu'il y a un petit peu moins de dopamine et qu'il y a une quantité de sérotonine qui est augmentée. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce type de patiente, l'accompagnement de leurs souffrances et de leurs difficultés ne passe pas par des médicaments, mais passe par un accompagnement. Alors par rapport à ça, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui est un petit peu plus clinique à partir d'une situation concrète. Voilà, c'est l'histoire d'une femme que j'ai accueillie récemment, et c'est une femme qui vient essentiellement parce qu'elle a des douleurs abdominales. Elle a des douleurs abdominales depuis longtemps, qui sont très très invalidantes, associées à des diarrhées importantes, des diarrhées qui surviennent d'un seul coup, voilà, et ce qui fait qu'elle est très 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 gênée dans sa vie courante, parce qu'elle elle peut pas aller faire ses courses, elle sait que quand elle va quelque part, elle connaît toutes les toilettes du coin, parce que quand il y a besoin de ça, elle peut absolument pas se retenir, et au fond, si elle trouve pas le lieu adéquat, elle va avoir des selles plein son pantalon. Alors, à partir de ça, évidemment, il y a eu tout un bilan qui a été fait, qui n'a rien trouvé de particulier. Elle a eu tous les médicaments de la terre qui, quand elle en prend beaucoup, bah, ça va, mais elle devient constipée, puis ça ne s'arrange pas, puis de toute façon, ça ne soulage pas ses douleurs. Qu'est-ce qu'on peut redire dans ce type d'exemple ? En discutant en fond, avec cette femme, ce qui était caractéristique, c'est que cette femme, elle a eu un père qui était alcoolique, violent, méprisant pour ses enfants, égoïste, essentiellement centré sur lui. Mon propos n'est pas du tout là de mettre un jugement de valeur sur cet homme qui est probablement a levé lui aussi ses blessures. Elle a eu une mère qui, on pourrait dire, était exactement l'inverse, c'est-à-dire gentille, généreuse, sacrificielle, toujours bonne, voilà. Et en reprenant cette histoire, cette femme me racontait qu'elle avait un mari qui avait une histoire pathologique un petit peu compliquée et que finalement, elle s'occupait énormément de son mari. Et au fond, vous voyez, ce qui me semblait dans cette histoire, c'était que elle... Alors, je vais rajouter un troisième élément dans cette histoire. Cette femme, elle avait eu un premier mari, d'abord un premier couple, qui avait duré 6 ans, et cet homme, en gros, était essentiellement un alcoolique. Là aussi, je précise bien que je ne mets pas un jugement de valeur. Au contraire, il s'agissait plutôt de se dire que c'était un homme blessé. Et cet homme alcoolique, finalement, ils s'étaient séparés tous les deux. Et cet homme, quelques années plus tard, s'était suicidé. Elle avait su qu'il s'était suicidé. Donc, vous voyez, il n'allait pas bien. Eh bien, ce qui me semble intéressant pour résumer cette histoire-là, c'était que le couple de ses parents probablement fonctionnait de type... sur le mode sadomasochiste, c'est-à-dire il y avait entre guillemets un sadique qui était le père entièrement centré sur lui. Je parle du mode de fonctionnement, hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il avait une structure sadique, j'en sais rien, je ne l'ai pas rencontré, mais un mode de fonctionnement sadique, que la mère de cette femme avait un mode de fonctionnement, on pourrait dire masochiste. C'est quoi la différence entre les deux? C'était le sadique, il n'y a que lui qui compte et l'autre n'est qu'un objet. Le masochiste, il n'y a que l'autre qui compte et lui ne compte pas, il n'est que l'objet de l'autre. Et au fond, il me semble que cette femme-là, elle était dans cette même situation-là. Et c'est-à-dire, elle était devenue en quelque sorte la fille de sa mère et qu'elle s'identifiait à cette fonction-là et elle était dans cette position. Et donc, on pourrait dire que... Alors, sa vie avait été quand même plus agréable que sa mère, puisqu'elle avait épousé un homme qui pouvait être un peu à l'image de son père, mais qu'elle s'en était séparée dans une double perspective. Premièrement, une perspective où elle avait affirmé quelque chose de sa propre identité. Ben non, je veux exister autrement que par ce moyen-là. Et deuxièmement, elle avait en quelque sorte pris de la distance par rapport à sa mère, c'est-à-dire par rapport à sa filiation. Alors ça, c'était il y a longtemps, peut-être il y a une vingtaine d'années. Mais elle gardait en quelque sorte la trace de ça dans son ventre. Et c'était assez spectaculaire de voir combien le chemin d'élaboration de cette femme a conduit, on pourrait dire, à 3 choses. Premièrement, une prise de conscience, c'est ce que disait la dame dont vous avez parlé là, en disant qu'il y avait une sorte de réconciliation, prise de conscience de ça. Deuxièmement, qu'elle avait compris que le fait pour elle d'aller mieux, ça passait par le fait qu'elle s'occupe d'elle-même, qu'elle prenne le temps de s'occuper d'elle-même. Je me souviens que lors des premières consultations, je lui avais dit « mais peut-être vous pourriez prendre une demi-journée par semaine où vous ne soyez pas l'infirmière de tout le monde ». Ça l'avait un petit peu surpris, elle avait vraiment intériorisé ça. Et au fond, on pourrait dire que son ventre, qui est ce premier cerveau, hein, c'est-à-dire le cerveau le plus archaïque, le plus reptilien, pour reprendre ce qui a été dit au début, et puis en même temps, celui qui fabrique l'essentiel de notre sérotonine, hein, voilà, 95% de la sérotonine est fabriquée par nos intestins et pas par notre cerveau, voilà, lui envoyer en quelque sorte des messages disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Voilà, donc elle avait gagné dans une prise de conscience, elle avait gagné dans le fait qu'elle a commencé à s'occuper d'elle-même et à prendre du temps pour elle, avec un coût à payer, parce qu'évidemment, elle reniait en quelque sorte sa fonction malheureusement totalement identitaire d'être la soignante de tout le monde, surtout qu'elle était aussi l'infirmière de ses amis, de tout le monde, enfin voilà, elle était la mère Teresa de peut-être du quartier. Ça, c'était le deuxième point, elle a pu s'occuper d'elle-même. Et le troisième point, qui n'était quand même pas négligeable, c'est que son ventre allait beaucoup mieux, voilà. Hein, donc vous voyez, on voit bien l'articulation entre le ventre qui en quelque sorte porte la plainte, qui va raconter, et j'imagine, on ne sait pas le faire actuellement, ou on ne le fait pas de manière en tout cas en routine, mais peut-être si on avait dosé les métabolites, c'est-à-dire les produits de dégradation de sa sérotonine dans son corps, on aurait peut-être vu qu'il y avait une très grande quantité de sérotonine qui était fabriquée de manière anormale.
Alors, au-delà de toutes ces pathologies, malheureuses, j'ai l'impression que nous sommes, tout un chacun, on peut être victime de ces émotions. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez? On a bien compris qu'on ne maîtrise pas ses émotions dans le sens biologique, effectivement, on n'y peut rien, on ne peut rien à ces montées d'adrénaline ou à ces sueurs froides. Oui. Mais Que pouvons-nous faire face à toutes ces émotions alors?
Ben, ce qui me semble, c'est que, vous voyez, l'articulation à partir de l'exemple de cette dame pourrait servir un petit peu de trame. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais moi avec les patients ou les analysants que je reçois. C'est-à-dire, d'abord, j'essaye de me rappeler que dans le cadre de ce circuit de la récompense, dans le cadre de la mémoire amygdalienne et tout ça, il y a énormément de choses à l'intérieur de notre corps qui sont inscrites. Voilà. Tous les événements heureux, circuit de récompense positif, ou malheureux, circuit de la récompense, surtout fais pas ça, parce que c'est trop dangereux, sont inscrits dans notre corps. Tous, on est tous comme ça, on n'échappe pas à la règle, même si on a eu en gros des bons parents qui ont bien fait le job, ils avaient leurs ombres, nous on a les nôtres, et on les transmettra aussi à nos enfants qui feront la même chose avec leurs enfants. Donc l'idée c'est d'abord... Quand je dis d'abord, ça ne veut pas dire obligatoirement sur le plan chronologique, mais sur le plan d'une échelle de causalité, enfin d'une suite de causalité, essayer de comprendre un petit peu tout, d'où ça vient. Le deuxième, c'est d'essayer de comprendre quelque chose de sa propre identité, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis, quelle est ma fonction, qu'est-ce qui me fonde, et au fond, qu'est-ce qui me manque. C'est pour ça que les psychanalystes, en particulier Jungiens, qui appellent ça l'ombre. L'ombre, c'est incontournable. Il n'y a que quand on est dans le noir absolu qu'on n'a pas d'ombre. Dès qu'il y a un petit peu de lumière ici, voilà, on voit l'ombre. Il y a l'éclairage au plafond de ce studio, on voit l'ombre de ma main sur le bureau. Donc dès qu'il y a de la lumière et qu'il y a un individu, il y a une ombre. Mais cette ombre, elle correspond à deux choses. Des personnages de nous-mêmes que nous n'aimons pas, mais qui vont venir de temps en temps nous embêter, ou souvent même d'ailleurs nous embêter. Et deuxièmement, des personnages de nous-mêmes que... On l'a laissé de côté parce qu'il y avait un impératif. Par exemple, pour cette femme, c'était faire comme sa mère, c'est-à-dire extrêmement généreuse avec tout le monde. Vous voyez ? Donc je pense que ça, c'est important. Donc on peut tenir au fond ces différents espaces. Premièrement, essayer de comprendre d'où ça vient. Deuxièmement, essayer de saisir à l'intérieur de nous-mêmes des personnages qui ont besoin d'exister. Pour cette dame, c'était... Eh ben, je pourrais me donner du bon temps, voilà, faire des choses que j'aime faire, pas être simplement à écouter la voisine qui a des malheurs depuis 30 ans, mais peut-être me regarder un bon film, ou aller me promener, ou faire de la peinture, comme ça. Et puis troisièmement aussi, écouter son corps, ça c'est très très important, parce que le corps, lui, il ne ment jamais parce qu'il n'est pas dans sa parole propre sous la dépendance de nos systèmes répressifs. Donc il s'exprime. Voilà.
Alors, en quelques mots, pour conclure, tout à l'heure, vous nous avez dit que nous n'étions pas moralement responsables de nos émotions, oui. Nous arriver. Mais par contre, nous sommes responsables de cette naissance, de cette connaissance du système de nos émotions et de la façon dont elles fonctionnent dans notre cerveau.
Oui, le problème, si vous voulez, c'est que très souvent, les gens se sentent coupables de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et moi, je leur dis extrêmement souvent, ça justement, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable des émotions qui surgissent à l'intérieur de vous-même. Mais, sauf à les infantiliser, évidemment, je leur dis, mais par contre, ce que vous en faites, c'est important. Donc, accueillez cette émotion. Vous avez de la haine vis-à-vis de votre voisin. Ok, si vous allez lui casser la figure, c'est peut-être problématique. Mais si vous essayez de vous dire, bon alors, qu'est-ce que représente ce voisin? Pourquoi il m'agace? Quelle est la part objective? C'est-à-dire, il fait toujours du bruit avec sa sono jusqu'à minuit et ça m'empêche de dormir, c'est objectif. Mais aussi, il y a une autre part où qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aller discuter avec lui et pouvoir lui dire? Voilà, on va élargir son champ de conscience. Et il y a lieu de l'entendre dans une perspective d'ouverture et une perspective de vie. Voilà. C'est-à-dire, ne pas se sentir coupable de tout ça, ne pas se sentir sous le poids de ces émotions qui nous débordent, mais se dire, j'essaye de les accueillir, de les prendre en compte et de voir ce que je peux en faire et comment je peux essayer de vivre mieux avec, en les ayant comprises et métabolisées.
Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Un grand merci au docteur Dominique Demichel et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours afin de poursuivre cette série sur les émotions.